Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les relations internationales sont souvent le fruit de rencontres personnelles entre dirigeants et aussi d'un imaginaire que l'histoire, récente ou ancienne, a façonné. C'est le cas de la Syrie et de la France, dont les relations bilatérales portent l'empreinte du mandat français de 1920 à 1946, mandat concédé par la SDN, la Société des Nations, au sortir de la Première Guerre mondiale. Et ce lien historique, aussi ténu soit-il des années plus tard, est instrumentalisé aussi bien à Paris qu'à Damas, chaque capitale se servant de ce lien pour asseoir son influence dans la région moyenne-orientale. C'est ce que décrit l'universitaire Manon Nourtanous dans son livre « Chirac, Assad et les autres ». À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Manon Nourtanous.
Bonjour.
Docteur en relations internationales, chercheur associé à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe du Collège de France. Vous enseignez à Sciences Po Paris et Paris 2 Panthéon Assas et vous présidez le cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient. En 2011, rappelons-nous, les soulèvements dans les pays arabes contre les autoritarismes ont fortement touché la Syrie, avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Cette révolte populaire a conduit la France à revoir sa politique envers la Syrie. Manon Nourtanous, vous écrivez dans votre dernier livre « Chirac, Assad et les autres » publié aux presses universitaires de France que les choix effectués à ce moment-là sont à inscrire dans les relations franco-syriennes depuis le mandat de la France en Syrie et surtout depuis la fin de celui-ci. Qu'entendez-vous par là ?
Oui, je pense qu'il est important, en fait, pour comprendre l'actualité, d'inscrire les relations franco-syriennes dans le temps long et de comprendre notre intérêt pour ce pays, nos grilles de lecture par rapport à ce pays, qui explique toute une série aussi d'objections par rapport à la politique française de 2011. La protection des chrétiens en fait partie, mais il y en aurait d'autres à mentionner. Et aussi le fait qu'on ne prenne pas acte tout de suite des soulèvements populaires de 2011, puisqu'on avait bâti nos relations avec ces pays-là sur des relations avec les régimes, avant tout.
Est-ce qu'il existe une relation bilatérale franco-syrienne forte ou celle-ci est-elle noyée dans une diplomatie multilatérale ?
Alors effectivement, la relation bilatérale fait partie en fait du tissu de relations que chacun des pays construit pour faire sa politique étrangère. Et entre la France et la Syrie, l'idée que j'essaye d'avancer, c'est que c'est une relation pour les autres, une diplomatie de levier, et que donc on a une relation avec la Syrie, non pas par intérêt pour la Syrie en tant que telle, et inversement la Syrie par rapport à la France, mais parce qu'on cherche à avoir du poids au Moyen-Orient. Et inversement, encore une fois, la Syrie a une relation avec la France pour avoir un rôle en Europe et avoir l'oreille d'un pays occidental important.
La relation bilatérale que vous décrivez se nourrit-elle du partage d'une histoire commune ou se limite-t-elle à conserver des liens dont on pourrait avoir besoin le moment venu ?
Alors, il y a une histoire commune importante, y compris l'histoire mandataire, l'histoire coloniale. Cette histoire commune est soldée assez rapidement, et en particulier au moment de la crise de Suez en 56, qui fait que les relations sont rompues entre la France et une série de pays arabes, dont la Syrie. Et donc, on va pas avoir cette poursuite des relations comme on a pu l'avoir avec le Liban. Tout ce qui reste de cette séquence et de cet imaginaire, ça va être des relations culturelles importantes, et aussi, côté syrien, la revendication d'une France qui a mutilé le pays en redessinant ses frontières. Mais sur le plan politique, l'histoire coloniale ne pèse pas, comme on l'entend, par exemple, sur les relations avec l'Algérie.
Alors, dans votre livre, vous proposez l'expression « diplomatie de levier » pour définir cette relation bilatérale. Que voulez-vous dire par là ?
Alors, la diplomatie de levier, c'est l'idée, en fait, que chacun utilise l'autre, instrumentalise sa relation avec l'autre pour décupler son poids sur des sujets qui sont plus importants. Par exemple, la France utilise sa relation avec la Syrie pour avoir un poids sur le dossier israélo-arabe, sur le dossier libanais, sur le dossier irakien. C'est véritablement ce qui anime sa manière de traiter avec la Syrie. Donc la relation est indirecte. Elle n'est pas pour autant secondaire, parce qu'on a un intérêt réel à avoir ce rapport avec la Syrie, mais elle est indirecte.
Alors votre livre démarre, on peut le dire, à 1946. C'est la fin du mandat français sur Syrie et Liban. Y a-t-il une évolution de la relation franco-syrienne entre le général de Gaulle, par exemple, et donc les années 58-60, et ensuite Mitterrand, période plus moderne ?
Il y a une évolution très nette qui est notamment la fin de la politique coloniale de la France et 62, les accords d'Évian, la fin de la guerre d'Algérie, qui vont permettre au général de Gaulle de renouer des relations avec le monde arabe sur des bases fondamentalement nouvelles. Ça va être le cas avec la Syrie, entre autres. Il va être aussi l'acteur d'une politique perçue comme anti-américaine et pro-arabe dans le conflit israélo-arabe, ce qui va lui donner une aura dans la région. Donc tout ça, ce sont des éléments de continuité. Ça profitera en particulier à Jacques Chirac, qui se pose en héritier du gaullisme sur ces questions-là. Mais dans cette histoire longue, il y a aussi des dossiers très circonstanciels, très ponctuels, comme la guerre civile libanaise sous Mitterrand, des conflits israélo-palestiniens sous Jacques Chirac. Donc il y a toujours des éléments d'actualité qui soit relancent les tensions, soit changent un peu notre manière de traiter avec la Syrie.
Mais est-ce que l'accession au pouvoir de Hafez el-Assad change les choses dans la relation entre la France et la Syrie ?
Alors l'année 70, c'est une rupture fondamentale dans les relations franco-syriennes, donc le coup d'État mené par Hafez al-Assad. Les diplomates français de l'époque, si on en croit leur télégramme, ne voient pas tout de suite que ça s'inscrit dans le temps long, mais véritablement à partir de là, tant pour Hafez al-Assad que pour Bachar al-Assad, c'est eux qui vont imposer leur rythme pour les relations franco-syriennes. Et le rôle que Assad se construit pour lui-même dans la région, cette légitimité interne qu'il ne peut acquérir que par la force, qui va le pousser à verrouiller la scène interne, mais à attiser les dossiers régionaux, les tensions sur la scène régionale, vont nous imposer de considérer la Syrie d'une nouvelle manière. Donc 70, c'est véritablement une rupture.
Donc Hafez el-Assad, finalement, a un poids majeur sur cette relation bilatérale.
En fait, je crois qu'on va toujours établir notre relation à partir de son arrivée au pouvoir avec la Syrie dans le cadre qu'il veut pour lui-même, en intégrant la centralité qu'il veut pour lui-même dans la région et sans jamais faire varier cette ligne politique.
Alors, à partir de 1995, Jacques Chirac est président de la République française. C'est lui qui devra gérer la succession d'Hafez el-Assad. En 2000, les relations s'en trouvent-elles modifiées à ce moment-là ?
Alors 2000, effectivement, le pouvoir passe de Hafez al-Assad à son fils, donc c'est le seul cas d'ailleurs de transition de pouvoir dans une république du père au fils, donc on a parlé de répu-monarchie pour ce cas syrien bien particulier. Assad avait de bonnes relations avec Chirac. Chirac va essayer de les poursuivre avec son fils, mais sur des bases nouvelles, et il va envisager un nouveau rôle pour lui-même qui va être celui un peu du parrain, du mentor, du protecteur, en assurant à Bachar al-Assad une entrée sur la scène internationale. Il va l'imposer chez ses partenaires européens par exemple, et inversement, pour reprendre l'expression d'un de mes interlocuteurs dans le livre, Bachar al-Assad va se faire adopter par ce dirigeant étranger, parce que ça va être pour lui la source d'une légitimité dont il a fait cruellement défaut sur la scène interne.
Est-ce qu'on peut dire que c'est Jacques Chirac qui développe cette diplomatie de levier que vous évoquez dans votre livre ?
C'est lui en tout cas qui va la pousser au bout de sa logique et qui va utiliser véritablement une relation avec la Syrie qui n'est plus empreinte du cynisme ou de la froideur qu'on pouvait avoir sous un François Mitterrand, pour au contraire l'utiliser pleinement pour avoir un rôle sur les dossiers régionaux. La séquence de 96 que je cite au début du livre, qui est l'invasion israélienne du Liban, va être vraiment la matrice de ça. Et la France, en se faisant médiatrice de cette crise, aura un rôle inégalé jusqu'à aujourd'hui dans les crises régionales.
Alors vous évoquez la proximité donc entre Jacques Chirac et Bachar al-Assad. Est-ce que cette proximité se renforce après les attentats aux États-Unis de septembre 2001 ?
Alors elle se renforce, mais de manière a posteriori assez illusoire en fait. Bachar al-Assad va tout de suite intégrer les éléments de modernité qu'il comprend que les Occidentaux attendent de lui. Il va intégrer la rhétorique de la lutte contre le terrorisme après 2001. Il va aussi commencer à parler de société civile. Enfin, tout ce que les Occidentaux veulent entendre, il le prononce. Ce qui fait dire aux diplomates, d'ailleurs à l'époque, je cite un des télégrammes diplomatiques, « Ils pensent comme nous pensons ». Donc c'est vraiment cette relation de confiance qui se construit. En réalité, l'expérience future, les années 2003 et 2004, montreront que c'était une instrumentalisation des pressions occidentales sur le régime, et que Bachar al-Assad, si dans la rhétorique se pliait très bien, notamment à la lutte contre le terrorisme, dans les faits, sa coopération était beaucoup plus limitée.
Justement, 2003, c'est en quelque sorte l'année de la rupture entre la France et, en tout cas, entre Jacques Chirac et Bachar al-Assad. Est-ce une rupture qui intervient en raison de la situation au Liban ou en raison de l'absence de démocratisation du régime ?
Alors, c'est une rupture qui intervient, il y a des causes cumulatives en fait. Effectivement, l'absence d'évolution du régime sur la scène interne agace Jacques Chirac, de même que le fait que Bachar al-Assad ne coopère pas à la stabilisation de l'Irak voisin, déstabilisé par la guerre américaine de 2003. Mais véritablement, la cause de la rupture, ce sera la crise libanaise et tous ces signaux qu'envoie un proche de Jacques Chirac, qui est Rafik Hariri, l'ancien premier ministre du Liban, et qui dit au président français que la présence syrienne se renforce force au Liban et qu'il reçoit même des menaces personnelles contre sa vie de la part du régime syrien.
D'autant que, à l'époque, Bachar al-Assad semble être de plus en plus attiré, non plus par les Européens, mais par les Américains.
Il est obsédé par les Américains.
Pourquoi ?
Il est obsédé, en fait, par ce qu'ils peuvent faire contre lui. Il semble évident, d'après ce que j'ai pu lire dans les échanges diplomatiques, qu'il a été très inquiet d'une réaction américaine contre son régime de la même nature que celle qui avait été faite contre les Irakiens. Donc, son obsession, c'est de convaincre les Américains qu'il est un partenaire de la lutte contre le terrorisme. Et dans tout ça, la France, en fait, son rôle se trouve dilué. Elle n'est plus que le messager de messages américains, mais il ne trouve plus d'intérêt réel à nourrir des relations avec la France.
Alors on voit bien le rôle central que Jacques Chirac a joué ces dernières années dans la relation bilatérale entre la France et la Syrie. Y a-t-il un leg de Jacques Chirac sur ce plan-là ? Pour la diplomatie d'aujourd'hui.
Il y a un leg de Jacques Chirac qui est d'abord l'expertise qu'on peut avoir de ce pays. La France a une expertise réelle de la Syrie qui est construite en fait tant autour des phases de coopération dont Jacques Chirac a été un acteur majeur qu'autour des épisodes de violence que l'on songe aux années 80 sous Mitterrand, mais aussi aux années 2005-2006, à l'assassinat de Rafik Hariri à Beyrouth. Donc tout ça ensemble fait que la France a une expertise réelle sur la Syrie, ce qui va lui permettre en fait dès 2011 de convaincre ses partenaires à la fois européens et américains de son diagnostic sur la crise syrienne, qui va être celui du soulèvement d'une partie de la population syrienne et de inversement de sa répression par le régime.
Une analyse qui malheureusement n'est pas suivie d'effet.
Une analyse, oui, qui a été suivie d'un soutien symbolique pour l'opposition autour, par exemple, de ce qu'on a appelé le groupe des amis de la Syrie. Ça ne se traduit pas d'un soutien réel sur le terrain, et en particulier lorsque des questions très pointues se posent, comme celle de l'armement des opposants, où on voit très bien que les débats européens sont d'une telle nature qu'on ne pourra pas aller plus loin dans ce type d'interrogation. Ce qui va d'ailleurs plomber la politique française à un moment où les partenaires du régime, eux, sont prêts à mettre les moyens de leur politique à le soutenir sans réserve.
Mais diriez-vous que la crise syrienne de 2011 a modifié cette relation bilatérale entre la France et la Syrie ?
Alors, très clairement, depuis 2011, on n'est plus du tout dans la matrice de la diplomatie de levier. On peut plus utiliser la Syrie pour avoir un rôle dans la région. Et surtout, tout le calcul qui a été fait ces 30 dernières années sous le thème du réalisme, d'ailleurs, qui est un mot qui revient aujourd'hui, qui est de parier sur des régimes forts pour avoir une stabilité dans la région, tout cela s'effondre à partir du moment où les sociétés se soulèvent. La question interne revient sur le devant de la scène. Et toute cette thématique de la démocratisation qui restait très lointaine dans nos rapports avec ces pays devient centrale.
Alors si on voit que la relation avec le Liban, diplomatique ou affective, culturelle, persiste, est-ce que vous diriez qu'avec la Syrie, cette relation franco-syrienne est de plus en plus ténue ?
La relation franco-syrienne a toujours été en fait plus difficile que celle avec le Liban, en particulier par rapport à l'imaginaire que véhicule la Syrie dans les années post-indépendance, dans les années 50-60. Il y a eu cette image d'une Syrie verte d'une part, une Syrie musulmane qu'on opposait volontiers à un Liban chrétien, même si numériquement il y a plus de chrétiens en Syrie qu'au Liban, mais pas en proportion. Et l'image d'une Syrie rouge, nationaliste arabe, socialiste, qui inquiétait dans un contexte de guerre froide. Donc l'héritage du mandat n'a pas été poursuivi du tout de la même manière avec la Syrie qu'avec le Liban.
Merci Manon Nourtanous. Je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales, présidente du Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient.
Merci à vous.
Un extrait du dernier album de Tanjaret Darret, littéralement Cocotte Minute, groupe de rock syrien réfugié comme d'autres à Beyrouth en raison de la guerre civile. Nous Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Alexandre, la garde à vue d'une figure de proue de l'opposition égyptienne est largement commentée par la presse arabe.
Il s'agit de Abdelmenem Abou Foutouh, le chef du parti Égypte Forte. Il a été arrêté à son retour d'un voyage à Londres et accusé de collaboration avec une organisation terroriste, les Frères musulmans, dont il avait fait partie lors de ses débuts en politique. Il a aussi été accusé de répandre de fausses informations et de chercher à enrayer l'élection présidentielle prévue en mars. Le journal égyptien Al-Youm Seba, proche du pouvoir, indique que des députés de la majorité ont approuvé l'arrestation d'Abou Foutouh et estimé que les autorités n'ont que trop tardé à agir. Le journal indépendant Al-Masr Al-Youm se fait l'écho de politiciens qui estiment que l'arrestation d'Abou Foutouh vise à terroriser l'opposition. Le journal panarabe Quds Al-Arabi estime pour sa part que le pouvoir égyptien a tout simplement éradiqué la vie politique.
Christian, la police israélienne qui recommande l'inculpation de Benjamin Netanyahou pour corruption, c'est la grande affaire de la semaine.
Oui, tous les médias qui attendaient cela depuis des semaines s'en sont donnés à cœur joie. Pour la plupart des commentateurs, le Premier ministre devrait démissionner, une conclusion que ne partage pas Israël Hayom, un quotidien pro-Netanyahou qui estime que le Premier ministre est victime d'un complot des médias et de l'opposition de gauche. La grande inconnue porte désormais sur la décision du procureur général Avishai Mandelblit, qui doit décider s'il inculpe ou non Benjamin Netanyahou. La procédure devrait prendre des mois. Sur le front politique, les commentateurs constatent que la coalition au pouvoir tient bon pour le moment. L'opinion publique est divisée. Selon 3 sondages, un peu moins de la moitié des Israéliens estiment que le Premier ministre doit partir. Mais si des élections avaient lieu aujourd'hui, la coalition au pouvoir l'emporterait de nouveau.
Et à la une également, Christian, les frappes israéliennes en Syrie.
Oui, rappelons les faits, Israël a abattu un drone présenté comme iranien qui a pénétré dans son espace aérien avant d'attaquer en Syrie le poste de commandement de ce drone. Mais un des appareils a été abattu en vol pour la première fois depuis 36 ans. L'aviation israélienne a ensuite lancé 12 raids de représailles contre les positions de l'armée syrienne, une opération sans précédent depuis des années. Pour les médias, on a frôlé une guerre qui a été évitée notamment par les pressions de Vladimir Poutine. Mais pour le quotidien Yedioth Ahronot, il ne s'agit que d'une partie remise. Benjamin Netanyahou usera de la force si nécessaire pour empêcher l'Iran d'établir en Syrie des bases militaires susceptibles d'être équipées de missiles menaçant le territoire israélien. Bref, le moindre incident risque de dégénérer en confrontation générale qui pourrait s'étendre au Hezbollah et à tout le Liban voisin.
Alexandre, un reportage sur un mariage d'un genre spécial au Yémen a retenu votre attention.
Il s'agit en effet d'un mariage échangiste entre pauvres. Un homme épouse la sœur d'un autre et celui-ci en échange épouse la sœur du premier. On évite ainsi de payer une dot. Les femmes ne sont évidemment pas consulté dans ces opérations de troc. Selon une étude publiée par le journal Ash-Sharq Al-Awsat, 94% de ces mariages échouent. Le pire, c'est que le divorce d'un couple entraîne automatiquement, en échange, le divorce de l'autre couple.
Enfin Alexandre, les fatwas sur la Saint-Valentin ont fait encore couler beaucoup d'encre.
Une fête qui, jusqu'à l'année dernière, était considérée comme une invention de mécréants, contraire à l'islam. Mais entre-temps, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, a décidé d'opter pour un islam plus ouvert que le rigorisme wahhabite. Résultat des fatwas considérant que la fête de l'amour n'était pas contraire à l'islam. La presse arabe applaudit, même si certains chers grincent des dents dans les médias qatariens, des médias systématiquement opposés à l'Arabie.
Pour conclure, Christian Brunel, votre photo du jour qui est une caricature.
Oui, effectivement, le dessin du quotidien Haaretz montre Benjamin Netanyahou en train de fumer des cigarettes bon marché alors que sur la table trône une boîte vide de cigares cubains. S'adressant à son épouse Sarah, il confie alors d'un air triste « c'est vraiment pas le même tabac ».
Merci Christian et merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission réalisée par Mathias Golshani. Vous pouvez la retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.